6 heures.
Mathieu Furan, originaire de Steenvoorde, est l'invité de Bruno Lebert. Le 17 avril 2025, au nom du collectif Sauver le Steenmeulen, situé à Terre des Gemmes, monument historique qui est en vente.
Mathieu Furan, bonjour.
Bonjour.
Si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler du collectif qui veut défendre le Steenmeulen à Terre des Gemmes.
Oui, ben merci pour l'accueil. Oui, donc le collectif Steenmeulen, hein, c'est aussi simple que ça, son nom. C'est un collectif qui s'est un peu créé spontanément sur les réseaux sociaux à la suite d'une information qui est parue dans les journaux et donc forcément sur les réseaux sociaux sur la mise en vente du site. Et cette annonce de mise en vente a créé un émoi assez important et donc un collectif qui s'est créé spontanément sur les réseaux sociaux. Ouais. Collectif Steenmeulen.
Toi-même, tu es origine de Steenvoorde, et ce moulin, même s'il est sur Terre de Gemmes, on le voit très bien en étant à Steenvoorde, tu veux t'impliquer pour le sauver.
Oui, bah après, qu'il soit sur Terre de Gemmes, oui, c'est vrai que c'est important de le savoir, mais le Steenmeulen, on va dire qu'il trône sur la ville de Steenvoorde et les alentours, comme le clocher de Steenvoorde trône sur Terre de Gemmes et les alentours. Enfin, voilà, il faut savoir que de l'autre côté du fossé, on est bien sûr à Steenvoorde. Mais au-delà de ça, au-delà de ces considérations territoriales, oui, originaire de Steenvoorde, Steenvoorde, il y a, si je ne me trompe pas, il y a deux moulins en plus de celui
du Drivenmeulen, le Nordmeulen.
Le Nordmeulen. D'ailleurs, j'ai grandi au chemin du moulin du Nord. Donc, je voyais un moulin tous les matins en me réveillant. Et je voyais aussi le Steenmeulen très très souvent, puisque voilà, il est sur la route principale d'Hazebrouck et pour aller vers l'autoroute. Il y a beaucoup de gens qui le voient tous les jours. Il a une place, on va dire, à peu près centrale et symbolique. Donc, oui, je suis Steenvoordois et attaché au lieu, mais comme plein d'autres mondes qui sont habitués à le voir.
C'est un moulin unique dans son genre, puisque des moulins de briques, il n'y en a plus. C'est le dernier.
Oui, c'est. Alors, il y en a un peu dans la région. Il y en a un, par exemple, à Vervic, mais c'est vrai qu'il y en a très peu, beaucoup moins que les moulins en bois. Et il faut bien savoir que même s'il est un moulin, c'est un moulin de pierre, c'est un moulin qui demande quand même.
D'où son nom, Steenmeulen.
Steenmeulen, Steen qui veut dire pierre, comme Steenvoorde qui veut dire gai de pierre. Et voilà, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a même plus beaucoup de moulins dans la région. Ma grand-mère, qui était de Terre de Gemmes, justement, me disait que quand on regardait Cassel à l'époque où elle est née dans les années à l'époque où elle était enfant, on voyait une vingtaine de moulins sur Cassel. Et en fait, tous les moulins ont disparu les uns après les autres. Et même si c'est le seul moulin en pierre, c'est même au-delà de ça, l'un des derniers moulins qui nous reste.
Joseph Marquet, par lui-même, c'est une figure emblématique de ce moulin. C'est lui qui faisait vivre, qui faisait visiter avec son petit musée à proximité.
Oui, en fait, tout reposait sur lui et sur son épouse Vera qui s'impliquait beaucoup. Moi, je me souviens, j'ai visité avec les écoles et les centres aérés, et c'est pareil pour mes frères et sœurs et pareil pour plein d'autres jeunes qui ont grandi à Steenvoorde, Terre de Gemmes. J'ai visité au moins 3 fois ce moulin, et c'était Jeff avec sa voix particulière, cette passion.
Il nous sa casquette visée sur la tête.
Sur la tête, son on va dire son vêtement bien bien typique, son accent flamand, sa façon qu'il avait de nous expliquer quelle partie de la farine servait à faire le pain et tout ça. Enfin, c'est même des choses que je retiens. Tout reposait sur lui. Il a créé le musée à côté qui réunit des machines agricoles anciennes. Il a créé, il a réaménagé l'ancienne maison du meunier en mettant des gigotos aux tomates d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout a été imaginé par lui. Alors c'est pas lui qui l'a construit, mais dans la façon, dans l'approche touristique, dans ce qui était proposé dans le parcours, on va dire un petit peu de découverte, c'était Jeff et son épouse. Et voilà, j'ai fait partie et puis finalement personne n'a repris.
On peut dire que ce moulin était actif aussi, puisque si je ne me trompe pas, il faisait 750 tonnes de farine à l'année.
Oui, 750 tonnes. Alors quand on lui disait waouh, c'est beaucoup, il disait oh, non, c'est rien par rapport à l'époque. Il disait à l'époque, on faisait de la farine jour et nuit tant qu'il y avait du vent. Bon, lui, il le faisait à titre de pas expérimental, mais il essayait de montrer un petit peu aux gens comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça qu'il en produisait. Ça servait à une petite quantité. Et puis voilà, c'était de l'ordre du symbole, mais c'est pour bien montrer que Jeff, il était dans une démarche de transmission. Et faire de la farine, c'était pas quelque chose d'économique, c'était pour faire de la transmission.
Jeff, par lui-même, il voulait faire vivre en fait l'âme de son grand-père qui était meunier en utilisant ce moulin.
Oui, c'est ça. En fait, il était lui aussi. En fait, il l'avait eu en transmission, ce moulin. Et parce qu'il l'avait eu en transmission, parce qu'il avait grandi pas loin, parce que son grand-père lui avait expliqué comment ça fonctionnait, il s'était finalement inscrit dans la même démarche. Et il nous avait même dit que voilà, qu'il espérait que cette démarche de transmission soit perdure après lui. Donc voilà.
C'est ce qui est motivé.
C'est ce qui
est motivé. Et malheureusement, en 2024, il décède.
Depuis le décès de Jeff, propriétaire du moulin Steenmolen situé à Terre de Gem, n'est plus ouvert au public. La famille a décidé de mettre en vente l'ensemble du site. La possibilité qu'un particulier amoureux d'un moulin achète le site pour continuer à le faire vivre. Mathieu Fuon n'y croit pas vraiment.
On est tous tristes de savoir Jeff disparu. On savait qu'il avait même mal vécu un peu le Covid avec le confinement, cette impossibilité qu'il avait de transmettre. Et puis finalement, il est parti sans qu'on s'en rende compte là, il y a quelques temps, via les articles de journaux qui nous ont annoncé la mise en vente, sans que finalement la transmission soit préparée, sans que la suite soit forcément préparée. Et voilà, ce collectif, c'est un peu un cri du cœur vis-à-vis de la tournure que prend les choses.
Je serais tenté de dire aujourd'hui, attention, danger, puisque ce moulin va se dégrader s'il n'est pas utilisé, s'il n'est pas entretenu.
Bah oui, voilà, tout à fait. Il est mis en vente. Bon, il est mis en vente à un prix. Il y a des prescriptions qui s'imposent à lui. C'est un monument historique avec des dépenses obligatoires. C'est un ERP, donc un établissement recevant du public avec des mises aux normes obligatoires. Et il est situé au PLU dans un certain zonage qui font que, bon, l'acte de reprise d'achat, à mon avis, il va être très, très, très compliqué. Et c'est parce que c'est très compliqué et parce qu'on a déjà un an de passé et parce que déjà Jeff, il avait dû arrêter un petit peu avant son décès parce qu'il n'était plus en mesure de faire vivre le moulin, que le moulin, pour le moment, oui, potentiellement, il peut être en danger, comme l'ont été d'autres monuments en Flandre, hein, je pense au château Breda ou au château Vandamme à Cassel, des monuments qui ne sont plus entretenus sont des moulins qui sont potentiellement en danger. Et des monuments qui sont potentiellement en danger. Et donc le Steenmolen, il est dans cette situation-là. Même si la famille l'a mis en vente, je comprends très bien. Voilà, c'est dans le cadre d'une succession et parfois on n'a pas d'autre solution. Oui, mais les conditions de la mise en vente rend au final sa vente très hypothétique. Et pendant ce temps-là, le temps y passe.
On sait qu'aujourd'hui, ses ailes se dégradent et qu'elles devraient être remplacées même.
Oui, oui, on dit, il y a une expression comme ça, on dit le vent gifle les ailes parce que ça claque. Il y a le soleil, il y a le vent, voilà, c'est comme une maison. Hein, vous n'entrez pas dans une maison pendant 18 mois, vous voyez les résultats.
L'humidité, tous les jours.
Voilà, c'est ça. Et donc, sans faire de mauvais jeu de mots, le moulin est soumis aux 1000 vents, donc c'est encore pire. Et il n'y a pas que ça, il y a les bâtiments à côté. Donc, chaque jour qui passe sans que des solutions de transmission, de reprise soient trouvées, alternatives, rendre les choses un peu compliquées quand même. L'association, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle va faire ce qu'elle a commencé à faire là. Elle va éveiller le grand public à l'intérêt de la sauvegarde de ce patrimoine important. Le grand public et les personnes publiques. Il ne faut pas oublier que quand il y a le championnat de France de cyclisme qui passe, quand il y a le Tour de France, ça sera bientôt, quand il passe Jean-Pierre Pernaut, on est tous fiers que ça valorise le territoire. Et ils en sont tous très contents, les pouvoirs publics du territoire. Mais par contre, ils ne peuvent pas se permettre de simplement tourner la tête et de faire semblant de ne pas voir aujourd'hui, alors qu'on se vante de l'avoir sur le territoire en d'autres périodes. D'ailleurs, il était même passé au village préféré des Français où la commune de Terre de Gem a fini 6e. Donc vous voyez, il faut éveiller les pouvoirs publics et sensibiliser les pouvoirs publics et le grand public à cette question. Ensuite, il faut réfléchir aux autres voies de transmission alternatives, puisqu'ils ont pensé à une voie de transmission qui est la vente, mais il y a d'autres voies de transmission. Peut-être confier à un collectif de passionnés la gestion des lieux.
Pourquoi partir pas, sur une location ou quelque chose comme ça.
Pourquoi pas, faut qu'on en discute entre nous, faut qu'on voit ce qui est faisable. Et une fois qu'on aura défini cet autre mode de transmission et de gestion, là on va pouvoir aller, pourquoi pas, lever des fonds pour pouvoir faire vivre le nouveau modèle, quoi. Et pour pouvoir faire perdurer la mémoire de Jeff et faire perdurer tout ce qu'il a fait jusqu'alors. Donc voilà, c'est assez méthodique. On veut sensibiliser, on veut réfléchir à des voies alternatives et ensuite on veut lever des fonds. si nécessaire.
Vous êtes partie prenante pour contacter la région, le département, les comités de communes ?
Oui, oui, forcément, il y a des gens qu'on va contacter, hein, tous ceux que vous avez cités, hein, forcément, la communauté d'agglomération, même les villes et villages du coin, qui ont tous, hein, toutes ces personnes que vous avez citées, hein, ils ont tous bénéficié à un moment de la lumière de Stenmelen, donc je pense qu'on est en droit d'aller les voir.
On va préciser quand même que, puisque nous sommes à Cassel, du Tour de France, quand il y a le Tour de France qui passe à Cassel, c'est quand même 8 millions de personnes qui voient Cassel et la Flandre.
Tout à fait, et on peut rajouter les millions qui ont vu les championnats de France, les millions qui ont vu les reportages sur le Stenmelen sur TF1, bon, un peu moins de 8 millions sur WEO, mais voilà, il y a... Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que on peut pas se prévaloir de ce genre, d'une certaine fierté d'avoir ce genre de monument atypique et remarquable sur notre territoire et faire comme si c'était pas notre problème, ce qui est en train de se passer là aujourd'hui.
Les auditeurs qui seraient sensibilisés, qui voudraient rejoindre le collectif, la meilleure façon, c'est déjà de liker, comme on dit, ta page Facebook.
Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde est sur Facebook. N'hésitez pas à adhérer au groupe qui s'appelle Collectif Stenmelen, c'est aussi simple que ça. Après, on a une adresse mail, c'est collectifstenmelen@gmail.com. Et pour le moment, c'est nos seules voies de transmission. Adhérer au collectif, parce que plus on est déjà près de 100, plus on sera nombreux, plus on va faire avancer la cause. Voilà.
Tu penses lancer une cagnotte en ligne ?
Bah, là, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la troisième partie. Une fois qu'on aura sensibilisé, une fois qu'on aura trouvé des voies alternatives, oui, il va falloir peut-être, une fois qu'on aura déterminé cette voie alternative, qu'est-ce qu'on a besoin pour la faire vivre ? Et peut-être qu'on aura besoin de vivre de dons, de mécénat. Mais là, c'est un peu trop tôt, puisqu'on n'a pas défini encore le scénario. Il y a même des gens hein, qui m'ont contacté tout de suite sur Facebook en disant où est-ce qu'ils pouvaient envoyer leur chèque. Enfin, j'ai apprécié la démarche et c'était une marque d'affection qui m'a beaucoup touché. Mais néanmoins, j'étais obligé de leur dire que c'était un peu trop tôt. Et je suis même touché de la démarche hein, que vous me faites aujourd'hui.
C'était une évidence pour nous.
C'était une évidence, mais vous voyez, c'est pas parce que les choses sont évidentes que ça fait pas plaisir de les entendre. Et je veux vous remercier pour cette démarche et remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le début dans cette aventure qui débute.
Mathieu, merci d'être venu au studio. Sauvons le Stenmelen parce que c'est un monument emblématique de notre territoire.
Voilà, je n'aurais dit mieux. Sauvons le Stenmelen.
C'était Mathieu Fuan du collectif Sauvons le Stenmelen, le moulin des pierres de Terre des Gemmes en Flandre, dans la région des Hauts-de-France, entre Lille et Dunkerque. Cet entretien a été réalisé par Bruno Laubert. Montage Koulibaly Daouda pour Radio UI Lance-Pierre.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Mais sur quelle fréquence êtes-vous ?
106,6.
Radio Campus, 106,6 FM.
Ou sur www.campuslille.com.
Radio Campus, en DAB+.
Son âme, une valse électorale. C'est une valse sans corps ni tête, une valse qui sent la peste. Pas facile d'aller à Rome sans danser la valse. Pas facile d'aller à Rome sans danser la valse. C'est une valse sans fond social, une valse manu militari, une valse au Roland de l'oubli. C'est une valse, une putain de valse. C'est une valse blême, un coup dans l'abdomen. C'est une valse bouc émissaire, une valse de commissaire. C'est une valse pour les nomades, une sale valse qui déménage. Pas facile de boire du rhum sans danser la valse. Pas facile d'aimer le rhum sans danser la valse.
valse de la commande autour, une taille sera sur le retour, une valse du détour, c'est une valse, une putain de valse. Une valse de visage pâle, une valse du dégoût, une valse qui pue l'égout, c'est une valse sans tempo, pauvre valse de démago, pas facile d'être un homme sans danser la valse, pas facile de vivre en Rome sans danser la valse, c'est une valse barbelée, une valse d'enfermée, une valse sans amour, une valse mirador, une valse de la mort.
Jerky along. Le collectif des paysans urbains du Trichon est une association créée en juillet 2017 avec pour objectif de revaloriser une friche industrielle dans le quartier. Il a organisé sa troisième fête du printemps le samedi 26 avril sur le site de la ferme urbaine du Trichon à Roubaix. Rencontre avec Stéphanie, présidente du collectif des paysans urbains du Trichon.
Alors cet après-midi, donc, nous sommes à la ferme urbaine du Trichon et nous fêtons notre troisième fête du printemps. C'est l'occasion la troisième année qu'on propose aux habitants de se retrouver. Comme il fait beau, ça y est, on profite et les gens peuvent se poser, déjeuner et il y a plein d'ateliers pour les enfants.
Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une action qui permet de sensibiliser les habitants ?
Oui, effectivement, en fait, ça permet déjà de faire visiter le lieu. Il y a des gens qui n'osent pas rentrer. Ça permet de montrer qu'on est vraiment dans un îlot extraordinaire, hein, en plein Roubaix, plein centre-ville de Roubaix. Et oui, effectivement, on explique notre histoire, on explique l'intérêt. On explique aussi que c'est leur lieu aussi et qu'ils peuvent se l'approprier. Et c'est le partage et le vivre ensemble.
Quand je disais sensibiliser aussi, à l'écologie, à toutes ces questions de nature, d'environnement.
Mais oui, effectivement, c'est logique. Mais effectivement, ben oui, on ne fait pas juste ouvrir un endroit et c'est tout. On leur explique le pourquoi l'eau est importante, le pourquoi aujourd'hui on a des bacs et expliquer aux gens et leur apprendre comment cultiver des légumes et avoir consommé son propre légume, c'est très différent. Et puis, oui, c'est vraiment... Puis après, effectivement, on a la friche après où là, on fait du maraîchage. Et là, aujourd'hui, on avait un groupe où les gens ont pu se promener sur la ferme et découvrir toutes les herbes qui sont comestibles et toutes les herbes qui sont importantes pour l'écosystème.
Et en même temps, c'est aussi un moment où vous pouvez montrer tout le travail qui est fait par tous ceux qui sont là et qui militent autour de la ferme.
Oui, c'est vrai que tout à l'heure, je passais, il y avait un monsieur qui est rentré, qui connaissait pas et qui dit, ouais, c'est super beau ici, je connaissais pas. Et bien sûr que le quotidien, nous, on entretient le lieu. Après, les gens, ils trouvent que c'est bien. Et même parfois, ils viennent et puis ils nous donnent un coup de main. Mais ce qui est important, c'est que ce soit un lieu accueillant et que les gens puissent partager.
Et participer.
Et dans l'idéal, effectivement, merci. Et de trouver, pourquoi pas, des idées et des envies de participer avec nous. En fait, on fait des ateliers collectifs ouverts à tout le monde, qui sont les vendredis après-midi et les samedis après-midi, de 14h à 17h. Et tout le monde peut venir pour entretenir, pour apprendre à jardiner, pour bricoler ou juste pour discuter. Mais après, si on peut avoir des adhérents qui donnent un coup de main, c'est génial.
Si on veut des informations sur votre association, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Alors, il y a le site internet contact@fermeurbaine-du-trichon.fr. Donc ça, c'était l'adresse mail. Et un site internet de la ferme urbaine du Trichon.
Vincent Boutry, animateur de l'Université populaire et citoyenne de Roubaix.
On fait une fête du printemps, il y a plein d'activités ludiques et de découvertes de la ferme urbaine. Et nous, on est aussi sur l'aménagement d'un module témoin d'un habitat écologique léger partagé pour montrer un peu ce que ça peut être. Donc c'est un module de 35 mètres carrés à peu près, avec un demi-étage, il y a 25 mètres carrés au sol. Et donc l'idée, c'est de imaginer un logement d'une taille plus réduite que ce qu'on trouve sur le marché, et qui ait une empreinte écologique le plus faible possible. Et on voudrait essayer aussi de baisser les coûts de construction au maximum, d'une part par le réemploi de matériaux de construction, et d'autre part par l'organisation de chantiers participatifs encadrés par des artisans.
Donc ça fait partie d'un projet plus global.
Ouais, donc là, le module témoin, c'est un peu pour montrer aux gens, pour qu'ils puissent se projeter, est-ce que j'ai envie d'habiter là, est-ce que j'ai envie de participer à ce projet-là. Mais l'idée, c'est de faire un ensemble de 7 modules comme ça, Paul, avec un lieu partagé de 70 mètres carrés, et donc qui comprendra une cuisine, une buanderie, un local vélo, voilà. Mais chacun a son indépendance dans son module, sa petite kitchenette, sa douche, son toilette sèche. Mais l'idée, c'est de partager un certain nombre de services et de moments ensemble. Et donc, il y aura aussi, au-dessus du lieu partagé, on aimerait bien aussi avoir 2 studios hospitaliers pour des gens de passage, que ce soit des migrants, que ce soit des enfants, que ce soit des amis, des gens qui veulent faire un petit stage à la ferme urbaine, puisque ce groupe de logements sera aussi en bordure de la ferme urbaine du Trichon. Et donc tout ça, c'est dans un mouvement de transition écologique aussi qu'on a inscrit sur Roubaix.
Si on a besoin d'informations sur ce projet, où est-ce qu'on peut trouver ça ?
Vous pouvez vous adresser à Baraka, 20 rue Sébastopol, à Roubaix. Vous pouvez passer, c'est un restaurant, c'est un tiers-lieu aussi. Et puis on peut nous retrouver sur notre site internet, upcroubaix.org, ou bien sur le site de Baraka.
Jules, habitant le quartier du Trichon.
Alors cet après-midi, je suis venu donc à la fête du printemps à la ferme du Trichon pour y découvrir toutes les activités qui sont organisées. Alors il y a beaucoup de choses. Hein. Là, à ma droite, il y a un atelier impression de plantes sur du tissu pour faire des tote bags assez esthétiques. Il y a des petits ateliers aussi de collage de fleurs sur des feuilles de papier. Bon, il y a beaucoup de choses et puis il y a une très bonne ambiance. Je savais que ce serait festif, donc je suis venu avec plaisir, avec le sourire aujourd'hui.
Qu'est-ce qui vous attire dans ce type d'événement ?
Alors, ce qui m'attire dans ce type d'événement, c'est la possibilité de faire des rencontres, en fait, de rencontrer des gens qui habitent le quartier, qui sont aussi roubaisiens de longue date comme moi, ou alors arrivant plus nouveau, et puis qui globalement un peu s'intéressent à la vie associative ici. Notamment, bah, à la ferme du Trichon, on est assez tourné aussi vers l'idée peut-être d'utiliser des matériaux recyclés, d'être proche de la nature aussi, parce que c'est un grand jardin avec une surface verte, des arbres. Moi ici, je viens aussi régulièrement dehors de la fête, là, aujourd'hui, chercher des ateliers pour apprendre à jardiner, parce que c'est quelque chose qui me botte un peu. Et alors ici, il y a beaucoup de gens qui ont un savoir-faire à transmettre, alors c'est aussi ce que je viens chercher quand je viens à la ferme du Trichon.
Et vous êtes un nouvel adhérent, c'est ça ?
Oui, tout à fait, je suis nouvel adhérent depuis un mois à peu près. Je suis arrivé dans l'association. Alors, suite à un atelier auquel j'ai participé ici un vendredi après-midi, à partir de 14h, c'était avec Jérôme, un autre adhérent qui lui est là depuis un peu plus longtemps, qui animait l'atelier, qui m'a proposé de venir adhérer à l'association, me disant aussi qu'il y avait des bacs mis à disposition pour les adhérents, pour pouvoir avoir un petit pied-à-terre, un petit endroit à cultiver. Et puis moi, c'est exactement ce que je recherchais justement.
Lies, adhérent au collectif des paysans urbains du Trichon.
Puisque je suis adhérent, je passe ici pour aider mes collègues. Par contre, je ne suis pas dans un seul atelier, je passe par là, et c'est le besoin, elle me demande, voilà, je fais tout, quoi.
Qu'est-ce qui vous attire dans ce type d'événement ?
Dans ces genres d'événements, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Tout ce qui est écologique, jardinage, des ateliers pour les enfants, surtout pour les ados, pour les adultes. Du coup, c'est un endroit pour tout le monde.
Et dans la pratique, qu'est-ce que vous faites ?
C'est-à-dire
quand vous êtes au jardin ?
Ah oui, ici on fait du jardinage bien sûr, la première chose. Et après on fait du bricolage. On démonte des choses en bois de temps en temps ici, de faire des petits baraques ou des choses comme ça. On fait des modifications souvent, hein, ça dépend de nos besoins et voilà.
Antonio, adhérent au collectif des paysans urbains du Trichon.
Alors aujourd'hui, c'est la fête du printemps. Alors ça fait un petit moment qu'on la prépare et on espère avoir beaucoup de monde. Et c'est pour célébrer les différentes choses qui se déroulent et les récoltes qui vont se faire au niveau de la ferme du Trichon.
Comment est-ce que vous vous êtes investi dans cet événement ?
Comment ? Au départ, c'était juste en tant qu'adhérent pour récupérer des paniers solidaires. Et au fur et à mesure, à côtoyer les gens et à voir comment ils étaient investis. Je me suis investi aussi à l'intérieur et on a développé différentes choses, comme le terrain de pétanque pour aujourd'hui, la pose de tableaux d'artistes sur les murs, l'entretien du jardin et l'extension de la ferme.
C'est aussi un bon moyen de parler d'écologie.
Tout à fait. Et même si on connaît certaines choses, en fait, on ne connaît pas suffisamment. Et c'est le partage entre les adhérents, les non-adhérents aussi, hein, parce que ce n'est pas réservé qu'aux adhérents. Et en fait, c'est un grand échange et on apprend de manière perpétuelle.
Qu'est-ce qui vous semble important dans cette démarche ?
Important ? C'est la solidarité et l'échange entre différentes personnes qui sont d'univers et de milieux sociaux différents. Principalement ça. Et c'est très, très, très enrichissant.
Et à travers ces actions, vous parlez aussi, on disait tout à l'heure, d'environnement, vous parlez de biodiversité, et il y a différents thèmes que vous abordez aussi.
Ah, tout à fait. Principalement, la ferme du Trichon, c'est déjà rendre une terre qui n'était pas spécialement fertile, et la rendre fertile pour que ce soit une culture en centre urbain. Et c'est vraiment après l'apprentissage de la vie et le retour à l'essentiel, ou différemment de ce qu'on a sur la société de consommation actuelle. Et là, en fait, on le fait nous-mêmes. Et c'est ça qui est plaisant, parce qu'en fait, on revient vraiment à l'essentiel, on sait le temps que ça prend et on sait l'investissement qu'on a mis dedans pour récolter le fruit de notre travail.
Oui, parce que quand vous parlez de société de consommation, vous parlez aussi de la culture avec les pesticides.
Tout à fait. Tout à fait. Et là, on est vraiment sur une, pour le moment, une culture raisonnée, voire bio pour une partie aussi, hein, le temps que la terre soit un petit peu plus appropriée. Mais oui, c'est vraiment limiter l'usage des pesticides ou des produits qui peuvent être avec quelques effets sur le moyen long terme sur les hommes.
Nous étions à la troisième fête du printemps organisée par les paysans urbains du Trichon le samedi 26 avril sur le site de la ferme urbaine du Trichon à Roubaix. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Moi, quand je me dis que je suis large pour faire une demande de bourse ou de logement étudiant. Moi, quand je réalise que je n'ai plus que quelques jours pour faire mon DSE. Vite, je me rends sur messervices.gouv.fr avant le 31 mai.
Et pour savoir si tu es éligible à une bourse ou un logement étudiant et comment remplir ton dossier, il suffit de te rendre sur le site jedemandemabourse.lescrousse.fr. jedemandemabourse.lescrousse.fr.
Another got a racehorse, and we go to war. Got a tongue, I wish I had another one. Got a racehorse, and we go to all the blood sports. Got a paradise.
contre les vertus crues et la peste et le choléra. La comédie triomphera.
Je veux l'Islande étincelante, les pays de miel et de menthe, aux populos doux et sauvages, avec un rire fin et sage. Mais comme un phoque à l'univers, Belgique, Espagne ou Angleterre,
on va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues. Notre gourbie et répandons le rire ici avec nos clowns et nos clodos et nos musiciens du métro.
Je veux partir avec mon chat et mon lomo total paga vers les bons Noël éternels, bonbon chocolat caramel. Belgique, Espagne ou Angleterre,
on va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues. Et les fruits de mer, le champagne, les ruisseaux, les vertes campagnes. J'ai des grenats et des grenades, plein les poches, ma camarade.
Vive les vikings, les mouquers, oiseaux du paradis sur terre. Rêvons au milieu des vergers, n'oublie pas mes petits souliers. Belgique, Espagne ou Angleterre, on va descendre dans la rue, lutter contre les lustres crues.
Une fois de plus, un campement de personnes en exil a été détruit par les autorités. Ces démantèlements se produisent quasi quotidiennement dans la région, à Calais, Dunkerque et ailleurs. Et cette fois, on parle de la destruction d'un campement dans le Béthunois, près de Noranfonte, le campement de Saint-Hilaire-Côte, advenu le 8 avril dernier. Pour évoquer cet événement et le replacer dans son contexte, on a contacté par téléphone une membre d'une asso qui intervient sur place.
Donc je m'appelle Nan et je fais partie de l'association Terre d'Errance qui vient en aide aux personnes migrantes de passage dans le Béthunois et plus précisément encore du côté là de Noranfonte, Saint-Hilaire-Côte depuis 2008. L'association existe depuis 2008.
Alors justement, où est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être à nouveau le contexte de ce camp de Saint-Hilaire-Côte?
C'est un campement qui se situe donc à Saint-Hilaire-Côte. Auparavant, il était à Noranfonte, puis avant encore à Saint-Hilaire-Côte. Il se situe au fait entre la route nationale 43, donc qui va de entre Béthune et Saint-Omer là, et puis la 26. Dans cette partie-là, au fait, il y a 2 kilomètres à peine entre ces deux routes. Et le camp se situe là parce que il y a une aire de repos d'autoroute, une aire de service de Saint-Hilaire-Côte, qui se trouve là. Et par ailleurs, de l'autre côté, il y a les gares d'Isberg, de Hamon-Artois ou de Lillers, par lesquelles les personnes migrantes arrivent. Et elles se posent, elles essaient de survivre tant bien que mal dans des campements d'infortune entre les deux routes que j'ai citées, donc la route nationale 43 et l'autoroute, pour essayer de rentrer dans les camions qui s'arrêtent pour la nuit à l'heure de service, au fait.
Alors toujours pour avoir une idée assez précise de à quoi ça ressemble, hein, pour donner à voir aux auditeurs, aux auditrices, c'est quoi? C'est un champ, c'est un boisement, ça ressemble à quoi un peu ce campement?
Alors oui, en fait la route nationale est bordée, enfin les villes de Saint-Hilaire-Côte et surtout par exemple là de Noranfonte se trouvent le long de la route nationale. Et donc une fois qu'on est sur la route nationale et qu'on va vers l'autoroute, il y a à peine, même pas 100 mètres de maisons, d'habitation. Et après ça, tout de suite, on est dans les champs. Et on est dans les champs jusqu'à l'autoroute. Et donc, les campements successifs se sont et là, le campement de Saint-Hilaire-Côte, dont il était question, dans le communiqué de presse, se trouve dans les champs, au fait, entre deux champs, dans un croisement. Là, c'était des champs des routes de tracteurs, au fait. Il y avait un croisement de routes de tracteurs. Le campement était là, pas loin d'une réserve de récupération d'eau.
Alors, c'est un campement qui existe, alors pas forcément à cet endroit précisément, mais depuis pas mal d'années déjà.
Oui, nous, c'est les gendarmes qui nous ont appris qu'il y avait des exilés de passage là. Et donc qui essaie d'aller en Grande-Bretagne depuis la fin des années 90. Nous, notre association existe depuis 2008. Les bénévoles ont commencé à se bouger, à s'organiser, au fait. Il y avait des gens qui aidaient, hein. Il y a toujours eu des gens qui ont aidé, mais d'une manière vraiment ponctuelle et très individuelle, donc très invisible aussi. Et ces gens-là ont commencé à s'organiser à partir de 2006. Et l'association est née, l'association Terre d'Errance est née, a été créée début 2008. Mais c'est des gendarmes qui nous ont effectivement appris que des gens qui passent et qui essaient de passer et de survivre et de s'installer comme ils et elles peuvent sont là depuis la fin des années 90, ce qui paraît hallucinant, en fait.
Des personnes qui viennent d'une partie du monde en particulier, ou est-ce que les exilés viennent de manière générale des zones de conflit du monde ?
Alors, les gens viennent effectivement des zones de conflit. C'est faux de dire que les gens viennent des pays pauvres. Les gens viennent des zones de conflit, clairement. C'est ça qu'on observe. Et alors, nous, depuis que l'association existe, avant, on n'a pas de données sur l'avant, mais depuis que l'association existe, c'est principalement des personnes d'Afrique, de la Corne de l'Afrique, au fait, Afrique de l'Est, qui viennent. Donc, il y a des personnes d'Érythrée, d'Éthiopie et du Soudan qui sont présentes sur ce campement. Actuellement, c'est quasi uniquement des personnes érythréennes et éthiopiennes. Mais voilà, ça a bougé et ça va sans doute encore bouger. C'est pas parce que ce camp a été détruit que les personnes disparaissent, au fait.
On est toujours par téléphone avec Nan de l'association Terre d'Errance à Noranfonte, avec qui on évoque la destruction par les autorités du campement de personnes exilées advenu le 8 avril dernier.
Ce qui s'est passé, c'est que les autorités sont venues avec des gros moyens, vu les résultats, et le résultat très rapide, parce que juste en à peine quelques heures, tout a été le campement, donc toutes les tentes ont été enlevées. Alors les personnes exilées ont pu récupérer quand même au moins leurs affaires personnelles, et ça, on a dû batailler, les associations entières ont dû batailler pendant des années pour que, en cas de destruction, les personnes puissent récupérer leurs affaires, juste leurs sacs. Donc ça, quand même, ça a été fait. Mais sinon, toutes les autres affaires ont été embarquées et détruites. Du coup, on avait là, par exemple, les jerrycans d'eau ont été laissés. On ne sait pas trop pourquoi, comment. Est-ce que c'est de l'humanité de laisser ? Enfin, on ne sait pas. Mais sinon, toutes les tentes, toutes les palettes, tous les sacs de couchage, On avait aussi un grand congélateur, évidemment pas branché, hein, un vieux congélateur qui servait justement de réserve de nourriture, parce que là on est en plein champ, et dans les champs il y a des animaux, il y a des rats, il y a des rongeurs. Qui évidemment, s'il y a de la nourriture, sont attirés par cette nourriture. Donc du coup, c'était pour préserver un peu, mettre à l'abri cette nourriture. Donc tout ça, c'est parti au fait. Tous nos efforts depuis quelques années pour juste faire en sorte que ce soit moins invivable. Tout ça, ça a été détruit une fois de plus. Nous, notre grand regret, c'est de pas avoir commencé à compter depuis 2006-2007, qu'on a compté le nombre de destructions. Et donc là, c'était juste une destruction de plus, quoi.
Alors, comment la préfecture justifie-t-elle, en fait, cette intervention ? Est-ce qu'elle l'a justifiée ?
Alors, nous, on n'a pas eu de contact avec la préfecture, qui nous a complètement ignorés, qui a ignoré l'association, qui n'a pas ignoré quand même les personnes, puisqu'elle les a obligées, contraintes, à monter dans des bus pour aller dans des CAES, centres d'accueil et d'évaluation des situations, au CAES qui est du côté d'Arras, là, oui, c'est ça, au CRS de Croisy, merci beaucoup. Et donc, elle les a contraintes à monter dans les bus, à aller au CAES, donc ils sont allés là. Mais évidemment, dès 16h le soir, ben, les personnes étaient de retour à la gare de d'Isberg, au fait. C'était comme d'habitude, au fait, il s'est passé ce qui s'est passé vraiment habituellement. Et pour répondre à la question, du coup, les autorités se sont appuyées sur un arrêté municipal qui date de 2019 et qui disait que le bivouac était interdit sur la commune. Et c'était un arrêté qui avait servi aux destructions précédentes, sauf qu'au fait, nous, on se pose la question de savoir comment ça se fait qu'un arrêté, enfin, un arrêté, normalement, c'est défini et délimité dans le temps et dans l'espace. Donc là, l'espace, c'est toute la commune, mais alors le temps, là, ça date de 2019, quoi. Donc, c'est là-dessus que la préfecture s'est visiblement appuyée, parce que cet arrêté qui avait pris l'eau, la pluie et qui n'était plus que confetti et plastique de plus dans les champs, a été réaffiché quelques jours avant la destruction du campement.
Quelle est la situation aujourd'hui ? Donc là, vous dites les gens sont revenus. Est-ce qu'il y a un camp qui s'est reformé ou ailleurs ? Comment ça se passe ?
Ben alors là, la situation aujourd'hui, c'est que il y a eu, mais alors encore une fois, comme d'habitude. Une fois de plus, quand les personnes sont revenues, et ben il a fallu que nous, les personnes bénévoles, volontaires, les habitants du coin, les autochtones, on s'organise pour leur venir en aide. Donc aller chercher des sacs de couchage d'urgence, racheter des bâches en urgence à nouveau, faire appel à du bois, à tout comme d'habitude, des tentes encore, et puis les personnes ont erré pendant un ou deux jours à la recherche d'un lieu qui serait le moins pire, au fait, toujours dans cet espace-là, hein, entre la route nationale et l'autoroute. De toute façon, l'aire de service d'autoroute existe encore, les gares existent encore, donc voilà. Et surtout, les guerres, ce qui pousse les gens à partir et à vouloir aller en Angleterre, tout ça, ça existe encore. Donc, il n'y a pas de miracle, hein, les gens, ils sont là, au fait. Et ils sont là, et ils sont toujours dans la même galère, et ils sont encore une fois de plus pas reconnus. C'est d'une hypocrisie incroyable de les emmener, de les forcer en plus à monter dans des bus pour aller en CAES. Les CAES ont été un peu créés pour ça, hein, suite aux destructions du ghetto à Calais notamment, quoi. Mais les CAES, officiellement, c'est fait pour les personnes qui veulent demander l'asile et d'évaluer leur situation administrative pour voir si oui ou non ça vaut le coup d'aller plus loin, de demander l'asile, etc., quoi. Normalement, c'est fait pour ça. Là, les personnes qui ont été forcées à monter dans les bus le 8 avril dernier sont des personnes qui ne veulent pas rester en France. pour des raisons qui leur sont propres et qui souvent c'est les raisons qu'on retrouve, c'est à la fois j'ai de la famille en Angleterre, j'ai des liens en Angleterre, je parle anglais, j'ai un diplôme qui peut être reconnu en Angleterre, ou c'est aussi moi ce que j'ai vécu en France c'est pas possible, je ne vais pas demander l'asile à un pays qui me maltraite de cette façon là au fait. Et ces raisons-là existent encore, et donc du coup, la situation est encore là, et on en est encore, nous, à gérer des situations qu'on ne devrait pas gérer, au fait. Ce que fait Terre d'Errance ne devrait pas le faire.
Alors, vous l'avez dit, c'est une situation qui est tristement banale, hein, des démantèlements de campements, de personnes exilées, au niveau régional, il y en a quasiment quotidiennement. Et tristement aussi, on s'habitue un petit peu à cette situation. Et ce qui vous fait aussi poser cette question dans le communiqué de presse sorti par l'association, quand est-ce que cela cessera ?
Oui, c'est une question un peu désespérée, hein, qui se trouve un peu dans le communiqué de presse. C'est, c'est vraiment une question aussi de d'intelligence, mais tout cet argent public dépensé en plus à ne pas prendre en soin des personnes, à ne pas prendre en compte les personnes, à ne pas respecter les droits humains fondamentaux. Et à détruire en plus, parce que on n'a pas d'évaluation sur combien a coûté cette destruction-là, mais franchement, ils ont dû faire venir des machines et ça a dû coûter de l'argent. Ça a coûté de l'argent, c'est sûr. Je sais pas, on ne sait pas combien d'agents étaient mobilisés, etc. Mais pourquoi au fait ? Enfin, tout ça pour en plus ne pas respecter les droits fondamentaux des personnes et en plus que dans leur logique, la logique des autorités, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les personnes sont là à nouveau, au fait. Elles sont juste un peu plus dans la galère, un peu plus.
Nom de l'association Terre d'Errance à Noranfonte, jointe par téléphone le 18 avril dernier. Pour soutenir cette association et le travail d'aide qu'elle fournit auprès des personnes en exil, vous pouvez les contacter pour des dons ou du bénévolat. Sur Internet, il y a une page Helloasso. Sur les réseaux sociaux, vous tapotez Terre d'Errance. Ce sujet a été réalisé par Nico de Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
À Villeneuve-d'Ascq sur 106,6, à Tunis sur campuslille.com. Campus, partout avec vous.
La petite sœur qui danse toute seule tout près du bar, qui a l'air soumise aux additifs de comptoir. Elle picole au bistrot avec alcool et mots. La langue qui déballe ses histoires, la langue qui déballe ses histoires. Et petite sœur, ne tire donc pas la langue à des inconnus nus. Des hommes qui t'ont vu jouant les parvenus, ni vu, ni connu, ni l'amour en catimini, ni te prendra au dépourvu, vu ton frère à l'agonie, ni vu, ni connu. Elle n'a pas l'air comme si, comme ça, vraiment méchante. Même si ses ivrognes voisins dérangent, elle est bien dans sa peau, viens quitter son pot. Je tais oubliette des brocanteurs, je tais oubliette des brocanteurs, je tais oubliette des brocanteurs. Ainsi je vois ma petite sœur grandir de table en table, devant les vieux, je vais raconter quelle fable. Celle le petit Pierrot qui n'a pas dit son mot, ou celle qui traîne les filles sur les comptoirs, ou celle qui traîne les filles sur les comptoirs. Et petite sœur, ne tire donc pas la langue à des inconnus nus, des hommes qui t'ont vu jouant les parvenus, ni vu, ni connu, ni l'amour en catimini, ni te prendra au dépourvu, vu ton frère à la guenille, ni vu, ni connu.
Ton frère à l'agonie n'y te prendra au dépourvu, vu l'amour en catimini, ni vu ni connu, ni jouant les parvenus, ni des hommes qui t'ont vu à des inconnus. Et petite sœur, ne tire donc pas la langue à des inconnus,
ni
des hommes qui t'ont vu, jouant les parvenus, ni vu ni connu. L'amour en catimini te prendra au dépourvu, ton frère à l'agonie.